avec des gens, eh bien, je leur demandais qu'est-ce que c'est pour eux la bonté de Dieu. Et c'est pas facile parce que souvent on dit que dans notre vocabulaire humain, on dit souvent qu'on essaie de comparer la bonté de Dieu finalement avec la définition qu'on a de la bonté d'un être humain. Alors c'est très très loin de ça finalement. Si quelqu'un est bon parce qu'il fait le bien, eh bien on dit que quelqu'un est bon parce qu'il fait le bien. Eh bien, la bonté de Dieu ne se compare absolument pas avec rien de ce qu'un être humain peut faire sur cette terre. Alors, on va regarder ça ensemble ce matin, et on va cette quatrième partie va se diviser en deux parties, parce qu'on va regarder dans la première partie la bonté que Dieu manifeste envers les non-croyants, et dans la deuxième partie, on regardera la bonté que Dieu manifeste envers ses enfants. Alors, nous avons vu que je vais simplement résumer en cinq minutes les trois premières parties. On a vu dans les trois premières parties de ce message que les gens d'Israël et de Juda n'avaient pas fait ce qui plaisait au Seigneur en adoptant la façon de vivre des nations païennes autour d'eux. Et à cause de leur péché, Dieu va faire retomber un jugement sur son peuple. Et le prophète Jérémie, en voyant le désastre que le péché avait provoqué, parce que les gens vont être déportés, vont être en exil, vont être en captivité, le prophète Jérémie, eh bien, était attristé et il souffrait avec ce peuple. Même s'il n'avait pas pris part à leur péché, il souffrait avec ce peuple de voir tout ce que le péché avait pu provoquer parmi ces gens. Et pourtant, Jérémie a été capable de se tenir debout, malgré les décombres de la ville, malgré les cadavres qui traînaient dans les rues, était capable de se tenir debout et de louer le Seigneur, de hausser la voix pour louer le Seigneur pour sa grande fidélité à l'égard de son peuple. Il savait que peu importe si les choses allaient bien ou si tout allait s'effondrer, eh bien Dieu serait toujours Dieu et que non seulement il pouvait compter sur la fidélité de Dieu, mais également sur la bonté. Maintenant, c'est facile de dire ça du haut de la chair, mais il y a des conditions par rapport à ça parce que il y a des quand même, pour que Dieu manifeste sa bonté, pour que Dieu manifeste sa fidélité, en tout cas aux gens de son peuple, il est important qu'on marche aussi dans ses voies. C'est important. Dieu, c'est pas un Dieu bouffon, c'est pas un Dieu qui vieillit, qui se rappelle pas de ses promesses. C'est un Dieu qui est toujours fidèle à ses promesses. Mais chaque promesse que Dieu donne dans sa parole, eh bien, il y a toujours une condition pour soutenir cette promesse. Et au chapitre 3, versets 21 à 26 du livre des Lamentations, Jérémie dit ceci. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Et je pense que je l'ai dit la première fois dans la première partie, ces versets-là, on devrait les apprendre par cœur parce que ce sont des choses comme Jérémie qu'on a besoin de se repasser dans notre cœur jour après jour. Regardez ce qu'il dit. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et je me souviens que j'avais dit un dimanche, « Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance ce matin? Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance dans votre vie chrétienne ce matin? » Eh bien, regardez ce qu'il dit. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Alors, on nous dit dans le monde que tôt ou tard, les champs de pétrole vont finir par s'épuiser. Mais il y a une chose qu'on est certain, parce que la parole le dit à travers Jérémie, « Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent, ses compassions, à chaque matin, et ses compassions, pardon, ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Les compassions du Seigneur, et ça devrait nous... Ça devrait être un sujet de joie pour nous dans nos cœurs, ne s'épuiseront jamais. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Ça veut dire que le Seigneur, par son esprit, habite en moi. On partage ensemble. Il partage ma vie, il est en moi. Oh, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Voilà la condition pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ce matin, on va regarder, c'est vrai ce que Jérémie dit ici, mais dans sa grâce, Dieu aussi manifeste de la bonté pour ceux qui ne le cherchent pas. Parce que s'il y en a qui ne le cherchent pas, Dieu cherche, lui. Dieu les cherche. C'est ça qu'il faut saisir aussi. Il est possible que pendant un certain moment dans votre vie, vous ne cherchiez pas Dieu, mais je peux vous garantir une chose, Dieu, lui, vous cherchait. Parce que Dieu veut que tous parviennent au salut, à la repentance. Alors Dieu est à la recherche des pécheurs pour en ajouter le plus grand nombre possible dans son royaume. Et le mot bonté fait ressortir ici l'idée de quelqu'un qui a compassion, qui exerce la miséricorde, et ça fait encore référence au caractère de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon, et ce mot nous rappelle que Dieu est toujours impliqué dans ce qui est le mieux pour ses enfants, et qu'il est bienveillant envers tout ce qu'il a créé. Et le mot bienveillant, eh bien, c'est aussi de la même famille que le mot bonté. Et si on joue avec le mot bienveillant, on peut dire que c'est Dieu qui veille au bien. Bienveillant à Dieu qui veille au bien de toute sa création. De toute sa création. Et lorsque nous arrivons à réfléchir sur l'univers, nous découvrons que derrière l'immensité de l'univers, il y a un Dieu qui se soucie de ce qu'il a créé et qui est pleinement impliqué à agir pour le bien de celui-ci, parce qu'il est lui-même un Dieu qui est bon. Et quand on regarde l'univers, et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui fait que le message de l'Évangile est unique. Le Dieu qui tient l'univers. Et disons que comme les scientifiques, hein, supposons comme les scientifiques que l'univers n'arrête pas de grandir, de prendre de l'expansion, eh bien l'univers ne sera jamais, jamais aussi grand que le Dieu qui a tout créé. Eh bien, si on veut, hein, c'est une image que je vous donne, si l'univers prend vraiment de l'expansion, ça veut dire que Dieu est toujours, encore toujours plus grand que l'univers qu'il a créé. On ne peut même pas s'imaginer, on ne peut même pas représenter ce Dieu qui est esprit et qui finalement, dont la gloire se manifeste à travers tout ce qu'il a créé. Et ce Dieu qui tient l'univers dans ses mains, eh bien, il a trouvé le moyen de s'humilier, de devenir un simple être humain comme nous. Il est venu, il est né sous la loi pour obéir, accomplir parfaitement la loi, pour sauver ceux qui l'attendaient, qui étaient sous la loi. Et dans sa grâce, eh bien, Dieu a accepté de mourir pour des gens qui le détestaient, qui vivaient sans lui, qui n'en avaient rien à cirer de Dieu. Rien à cirer de Dieu. Ça, là, c'est le message, c'est un beau message de l'Évangile, ça. Non? Ouais. C'est un beau message de l'Évangile. Magnifique, ça. Quand je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, qui je suis pour que tu t'occupes de moi, quoi? Et on l'a vu, hein? On l'a vu dans les semaines. Dieu dit, tu es tellement précieux à mes yeux. Je suis en amour avec toi. C'est ce que le texte hébreu nous dit. C'est parce que je suis en amour avec toi que tu es précieux à mes yeux. Voilà pourquoi je me préoccupe de ta vie, maintenant et pour l'éternité. Et pour maintenant, je vais pourvoir à tes besoins. Et pour l'éternité, non seulement tu vas être dans mon paradis, mais tu vas aussi régner avec moi. Et j'avais montré l'exemple du trône de Jésus, hein? On dit que Jésus va régner sur la terre. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il va partager son trône avec nous. Le roi des Belges ne ferait même pas ça. Hein? Surtout pas le président américain non plus. Mais le Dieu de l'univers, lui, le Dieu de l'univers nous dit qu'il va partager son trône avec nous. C'est magnifique. Hein? Ouais. C'est extraordinaire. Dans le psaume 107, le psalmiste dit au verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon. » Car sa miséricorde, c'est-à-dire sa bonté, dure à toujours, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fin. Et David dit dans le psaume 34 et dans le psaume 145, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Et la bonté de Dieu est un vaste sujet que l'on retrouve abondamment autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et en préparant ce message, j'avais deux choix. Pardon, soit celui de couvrir tout ce dont la Bible parle concernant la bonté de Dieu, ou me limiter sur un point particulier, et c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter, c'est la bonté que Dieu manifeste envers les non-croyants, et la semaine prochaine, Dieu voulant, on regardera la bonté que Dieu manifeste envers ceux qui croient. Il y a un cantique qui dit que Dieu est bon en tout temps. Je ne sais pas si vous connaissez, Stéphane Kerry le chante en français, c'est un chant quand même anglais, mais Dieu est bon en tout temps, c'est vraiment une vérité que nous ne pouvons pas nier. Cependant, en le disant de cette façon, nous limitons de voir pleinement en quoi consiste la bonté de Dieu. Nous savons que du point de vue de Dieu, la race humaine se divise en deux grandes catégories, ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Et tous ceux qui vivent sur la terre à un moment donné appartiennent à une de ces deux catégories. Soit que vous êtes perdus et séparés de Dieu à cause de votre péché, ou soit que vous êtes sauvés parce que vos péchés ont été pardonnés par le sang de l'agneau. Et j'aimerais examiner avec vous ce matin, dans un premier temps, comment Dieu manifeste sa bonté envers ceux qui sont perdus, que Dieu manifeste sa bonté autant envers ceux qui sont perdus que ceux qui sont sauvés. Et en étudiant ce sujet, j'ai trouvé cela fascinant et très encourageant, et j'espère que ça va vous encourager vous aussi, parce que le fait de manifester sa bonté envers toute l'humanité glorifie le Seigneur. Nous commençons par une simple observation faite par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2. Alors, vous regarderez sur Internet, vous prendrez les références parce que on n'a pas le temps de tout lire ce que je vais dire. Mais dans Romains chapitre 2, alors qu'il vient juste de rappeler dans Romains chapitre 1, dans les versets 18 à 32, jusqu'à quel point la race humaine est méchante et corrompue, Paul rappelle à la partie du verset 1 à ces gens religieux qui étaient devant lui, qui proclamaient être innocents, qu'ils sont aussi méchants que les païens et qu'ils sont sans excuse. Il dit, « Toi qui juges les autres, Tu es donc sans excuse qui que tu sois. Car lorsque tu juges les autres que tu fais les mêmes choses qu'eux, tu te condamnes toi-même. Il ajoute au verset 4, « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu vise à te pousser, à te repentir? » Ça, c'est une première chose que Dieu fait, manifeste sa bonté à l'égard de ceux qui ne le connaissent pas. Sa bonté doit pousser les gens à se repentir. Ça, c'est quelque chose de super important. Et ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça confirme ce que Pierre dit, que d'autres versets disent, c'est que Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dieu ne fait pas de favoritisme. Deux, trois reprises dans la parole qui nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, il n'aime pas moins les non-chrétiens qu'il aime plus les chrétiens. Les chrétiens, ce sont des enfants qui sont venus à la connaissance de la lumière. Mais Dieu voit aussi la déchéance que le péché a portée sur la terre. Et Dieu a compassion pour ceux qui vivent dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile, parce qu'ils n'ont pas trouvé la voie qui les amènerait à se détourner du chemin dans lequel ils marchent. Et frères et sœurs, nous savons que Dieu punit toujours les pécheurs, mais que parfois il retarde son jugement afin que ils aient le temps de se repentir. Et nous pouvons donc dire qu'à chaque fois qu'un homme respire, Dieu manifeste sa bonté envers lui en le gardant en vie afin de l'amener à la repentance et au salut. À chaque fois que quelqu'un respire, c'est une grâce que Dieu lui accorde en fait, en la gardant en vie afin de l'amener à la repentance et au salut. Et ça, ça devrait... J'avais parlé de ça à l'étude biblique, mais je ne peux pas en parler du haut de la chair aujourd'hui. Mais il y a un acteur, David Carradine, qui est mort dans une chambre d'hôtel. Et quand on se rappelle de sa mort, il n'y a rien d'édifiant parce qu'il est en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. J'en ai parlé à l'étude biblique, j'en parlerai pas ici. Il a fait quelque chose et vous imaginez, à chaque fois qu'on parle de David Carradine, qui est mort, cet acteur, et qu'on demande, il est mort comment? C'est honteux pour lui, quoi. Parce qu'il est mort dans le péché. Il est mort carrément pratiquant le péché. Et ça, en tant que chrétien, qu'on devrait se rappeler qu'à chaque fois qu'on respire, eh bien, Dieu manifeste sa bonté envers nous en nous gardant en vie. Ça devrait nous rappeler aussi qu'en pratiquant le péché, il peut arriver que Dieu nous arrête de respirer, nous rappelle à lui. Et ça, c'est aussi un incitatif à dire, Seigneur, donne-moi la force dont j'ai besoin pour pouvoir marcher dans tes voies en Jésus-Christ. Ouais. Et en gardant cela à l'esprit, examinons brièvement 10 signes qui montrent comment Dieu manifeste sa bonté envers ceux qui ne sont pas sauvés. En créant premièrement les hommes alors qu'il savait qu'ils se rebelleraient contre lui. Dieu savait avant même de créer Adam et Ève que Adam et Ève tomberaient. Mais dans sa bonté, frères et sœurs, il va quand même créer Adam et Ève. À 7 reprises, il est écrit dans Genèse chapitre 1 qu'en regardant ce qu'il avait créé, Dieu vit que cela était bon. Et la dernière fois que Dieu contempla tout ce qu'il avait fait, il est écrit que Dieu vit que cela était très bon, au verset 31. Pourtant, Dieu savait à ce moment-là que l'homme se détournerait de lui et que la paix et la joie qui régnaient dans le paradis disparaîtraient à cause du péché d'Adam et Ève et le paradis reçu par grâce deviendrait le paradis perdu. Dieu savait d'avance ce qu'Adam et Ève feraient. Il connaissait d'avance toute la souffrance qui résulterait de leur péché et qui se répandrait partout sur la terre jusqu'à notre époque. Et pourtant, sachant tout cela d'avance, il a quand même créé l'homme, frères et sœurs. Auriez-vous fait cela si vous aviez été à la place de Dieu? C'est une bonne question qu'on peut se poser. On veut comparer notre bonté par rapport à celle de Dieu. Est-ce qu'on aurait fait cela, frères et sœurs? En sachant d'avance l'ingratitude des êtres humains, en sachant d'avance que vous investissez des heures à former des gens pour qu'ils puissent progresser dans leur connaissance et dans la connaissance de la grâce et de la personne de Jésus-Christ, en sachant d'avance qu'ils vont vous laisser tomber quelques années plus tard, seriez-vous prêt à investir votre temps dans ces personnes? Dieu lui le fait, frères et sœurs. Dieu le fait. Les 3 personnes qui sont venues au monde sans péché, Adam, Ève et Jésus. Les 2 premiers, la Bible nous dit, dans Romains, le premier Adam, il a décidé de pécher, le deuxième, non. Ouais. On ne dit pas le deuxième, on dit le dernier, parce qu'il n'y en a pas d'autre après. Ouais. Et Dieu savait toutes choses. Et pourtant, Dieu a décidé de les créer. Et vous savez une chose, frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu de péché dans le monde, on n'aurait jamais saisi autant l'amour que Dieu a pour nous que maintenant. Écoutez, si tout va bien, s'il n'y a rien de mal, comment nous on pourrait saisir pleinement que Dieu nous aime puisque tout va bien? Mais à travers ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden, eh bien on voit jusqu'à quel point Dieu nous aime Parce que Dieu, au lieu de nous laisser tomber, de nous laisser baigner dans notre péché, eh bien, Dieu va se sacrifier lui-même pour nous ramener dans son royaume. Quel Dieu merveilleux nous avons, frères et sœurs, quel Dieu merveilleux. Dieu, pardon. Pourquoi créer une race en sachant qu'elle plongerait tête baissée dans la catastrophe? Pourtant, Dieu l'a fait. Il nous a créés en sachant que c'est ce que nous ferions. Nous pouvons dire avec certitude que le fait de savoir d'avance que l'homme se rebellerait contre lui et qu'il l'a quand même créé constitue un signe de sa bonté, un signe de la bonté de Dieu. Deuxièmement, deuxième signe, Dieu ne fait pas mourir le méchant au moment où il pêche. Dieu dit à Moïse en Exode chapitre 34, verset 6, « Je suis un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, et fidèle, fidèle en bonté, c'est-à-dire riche en bonté. » Frères et sœurs, Dieu aurait pu être justifié de faire mourir Adam et Ève au moment même où ils ont péché, et personne ne lui aurait reproché d'avoir abandonné l'expérience qu'il avait tentée avec les êtres humains pour recommencer à zéro. Mais il a continué à manifester sa bonté envers les hommes, et à chaque génération, et ce, à chaque génération, même quand les hommes se détournaient de lui. Et dans Luc chapitre 6, verset 35, Jésus nous rappelle que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Nous avons pour la plupart d'entre nous souvent du mal à faire preuve de gentillesse et de bonté envers ceux qui sont bons envers nous, mais Dieu manifeste sa bonté envers ceux qui le détestent. Cela aussi est un signe de sa grande bonté, frères et sœurs. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Un troisième signe de la bonté de Dieu, c'est que Dieu déverse sa grâce sur tous les êtres humains. En d'autres mots, Dieu accorde aux hommes de riches bénédictions, peu importe leurs conditions spirituelles. Dieu distribue aux hommes sans faire de discrimination. Jésus dit, Dieu fait lever son soleil autant sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir autant sur les justes que sur les injustes. Mais ça arrive aussi que Dieu peut appliquer son jugement. Rappelez-vous, en Éthiopie, vous savez ce que ça a l'air, l'Éthiopie? C'est un désert, c'est un grand désert à perte de vue. Rappelez-vous la reine qui est venue visiter Salomon. L'Éthiopie, là, c'était un genre de paradis à l'époque de Salomon, hein. Mais finalement, de gouvernement en gouvernement, on a poussé lentement Dieu en dehors de l'Éthiopie, en dehors du pays, et on a ce qu'on a aujourd'hui, quoi. On ne ressent pas la présence de Dieu, pourtant Dieu est là, hein. Et je suis convaincu que Dieu doit pleurer pour l'Éthiopie aussi, parce que les gens qui vivent dans ce pays, je suis convaincu que Dieu veut qu'ils viennent à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu exerce sa bonté autant sur les bons que sur les ingrats. La terre parcourt l'espace. Les saisons changent, les fleuves coulent, les champs donnent leurs produits, et ce, pour leur bien général de toute la race humaine. Le pire pécheur peut bénéficier de ce qu'il y a de bon sur la terre, et même s'il ne le sait pas ou ne l'apprécie pas, il fait quand même partie de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu qui est commune à tous les êtres humains. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention de porter des jugements sur des gens en disant « lui n'est pas sauvable ». Si nous, là, il y a des gens qui ne sont pas sauvables, je tiens à vous dire que tant et aussi longtemps que les gens respirent, ils sont tous des cas pour faire partie, des cas potables pour faire partie du royaume de Dieu un jour. Et on a l'exemple, on va le voir à la fin, l'exemple du malfaiteur sur la croix. Vous savez, en Belgique, on est contre la peine de mort, mais on pourrait faire une exception pour Dutroux, hein, n'est-ce pas? Dutroux, il a fait les pires choses. Moi, je tiens à vous dire une chose, hein, pour que les malfaiteurs montent sur la croix côté Jésus, là, ils n'étaient pas mieux que Dutroux, hein. J'aimerais ça pour la liste de leurs dossiers criminels. Ce n'étaient pas des amateurs, hein, c'était des professionnels. Ouais. Ouais. Et pourtant, hein, on a dit la semaine passée, non, il y a deux semaines, le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix, parmi tous les gens qui avaient là, les soldats, les scribes, les pharisiens, la foule, un seul s'est converti. Et le seul qui était converti, s'est converti, c'est celui qui, aux yeux du monde, n'était pas convertissable. Ouais. Et Dieu va ouvrir les portes de son royaume à qui? À un malfaiteur. Il a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Ou aujourd'hui, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais. Jésus a déjà dit aux pharisiens, les voleurs et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Hein. Et je suis convaincu qu'il pensait à Rahab. Et je suis convaincu qu'il pensait à celui qui était monté. Comment il s'appelle celui qui était monté sur la branche d'arbre? Et Jésus a dit, hey, je vais souper chez toi ce soir. Zachée. Hein? Ouais. 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 Frères et sœurs, c'est pas nécessairement les bonnes personnes qui rentrent au ciel, hein. C'est tous ceux qui sont capables de confesser leurs péchés, de se repentir et de reconnaître que s'ils ne goûtent pas la grâce de Dieu, ils sont indignes d'entrer dans le royaume. Un quatrième signe de sa bonté, c'est que Dieu met un désir pour lui dans le cœur de chaque être humain. On a vu ça à l'introduction du cours de base cette semaine. L'Ecclésiaste dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Frères et sœurs, peu importe, il arrive à un moment donné, quand on est jeune, hein, peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel âge, ça doit être différent pour chaque personne, la mort, on n'y pense pas. On vit comme si nous, on mourrait jamais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui. Moi, je voyais des vieux, j'avais 12 ans, je voyais des vieux de 65 ans. Surtout à l'époque, il y avait une grosse mode. Hein. Ils étaient tous habillés pareil, hein. Chemise blanche, cravate noire, un costume, puis chapeau sur la tête. Il y avait des airs très, très sévères. Moi, je les regardais, je me demandais s'il n'y avait pas 100 ans, ces gars-là. Hein. Surtout avec mes yeux d'un bonhomme de 12 ans. Hein. Je me disais, hey, moi, je ne serais jamais vieux comme eux. Hein. Ben, les gars de 65 ans, je les ai déjà dépassés aujourd'hui. Hein. Ouais. Et pourtant... Vous savez, quand ça m'est arrivé, l'histoire de la mort, j'avais déjà raconté ça il y a longtemps, mais vu qu'il y a des nouveaux, c'est quand, à un moment donné, il y a un temps que mes enfants de l'école du dimanche, ils participaient à la première partie du culte. Et c'est quand j'ai commencé à avoir mes tout petits descendre en bas, et il y a une voix qui me dit à l'intérieur de moi, « Es-tu certain que tu vas assister à leur mariage, ces jeunes-là? » Je me suis dit, c'est comment ça me dit, mais dans 20 ans, est-ce que je vais être encore vivant, moi? Et là, l'idée de l'éternité. L'idée de l'éternité que Dieu a placée dans mon cœur, eh bien, ça fait surface. Là, je l'entends clairement, cette voix-là. Dieu qui a placé l'éternité dans mon cœur. Ben, gloire à Dieu, parce que je sais où je m'en vais. Mais dans le cœur de chaque homme, hein, la Bible, elle est claire, Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. Et lorsque Paul parle des perdus dans Romains chapitre 1, versets 18 à 20, il affirme que depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître de sorte qu'ils sont inexcusables. Frères et sœurs, quand vous regardez l'univers, quand vous regardez avec les télescopes qu'on a aujourd'hui, de penser que ça, c'est le fruit du hasard, d'une collision cosmique, eh bien, c'est parce qu'on fait l'effort de ne pas vouloir croire que Dieu existe. Parce que c'est impossible que tout soit en place, à la bonne place, à des distances qui sont parfaites, sinon tout se détruirait, s'autodétruirait. Ouais. Faites juste déplacer la Lune un petit peu hein, par rapport à la Terre. Juste le Soleil un petit peu. Hein. Ouais. Faites juste rapprocher le Soleil. De pas grand-chose. Hein. Eh bien, la Terre, va ressembler à une barre de chocolat, elle va fondre. Hein. Ouais. Faites juste déplacer un peu la Lune hein, avec les marées. Hein. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de monter très haut pour être capable de survivre à l'inondation générale qu'il va y avoir sur la Terre. Ouais. Tout est en place. C'est Dieu qui a placé ça. Et c'est ce qu'il dit, Paul. Hein. Je trouve ça bien parce qu'il dit juste deux choses. Hein. Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient à l'œil nu. Quand on regarde le ciel, quand on regarde tout ce qui est autour de nous, quand on regarde la perfection des couleurs qu'il y a chez les animaux, eh bien, pour ne pas croire que Dieu existe, c'est parce qu'on doit faire un effort supplémentaire pour croire à cela. Et Paul dit, c'est là que les hommes peuvent les connaître de sorte qu'ils sont sans excuse. Lorsque Paul a prêché à Athènes, il a complimenté les Athéniens en leur disant qu'il avait constaté qu'ils étaient des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, alors qu'ils parcouraient leur ville, nous dit-il dans Actes chapitre 17, et qu'ils regardaient les monuments qui servaient à leur culte, il avait trouvé un autel sur lequel il était écrit « Un Dieu inconnu ». Et les anthropologues disent que l'homme est par nature incurablement religieux. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à chercher, en dehors de lui-même, un sens face à la vie. Il peut se tourner vers Dieu, ou il peut adorer les idoles qu'il s'est fabriquées lui-même, ou implorer les mauvais esprits que consultaient leurs ancêtres. Quand on débarque au début de, je dirais, au 16e, 17e, 18e, et début même du 19e, quand on a commencé à découvrir le Nouveau Monde et d'autres parties du monde, on s'est aperçu que tous les peuples adoraient un dieu. Les Indiens en Amérique, c'était des totems. Il y avait des totems et ils adoraient finalement les figures qui apparaissaient sur les totems. Les Esquimaux dans le nord canadien, c'était la même chose. Ils adoraient autre chose et ainsi de suite, un peu partout. C'est inné chez l'homme, ça. C'est parce que c'est Dieu qui a placé ce quelque chose à l'intérieur de l'homme. Le philosophe français Pascal a appelé cela un vide en forme de Dieu. Et saint Augustin, quant à lui, nous a laissé cette prière assez bien connue. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Cela m'amène à dire que l'athéisme est la philosophie la plus artificielle qui existe dans ce monde, car elle va à l'encontre de ce qui distingue un être humain des autres créatures. Et c'est vrai, hein? Parce que quand vous pensez que l'être humain croit absolument rien de l'autre côté, il pense exactement, non, il pense pas, il se met au même niveau que les animaux, parce que les animaux vivent comme ça, hein? Les animaux n'ont pas peur face à la mort, ils ne pensent jamais. Hein. Ils n'ont pas été créés pour ça. Hein. Mais l'être humain se distingue de l'animal. Un homme doit se renier en tant qu'être humain pour vivre comme si Dieu n'existait pas. Il doit étouffer son désir intérieur pour Dieu afin de nier son existence. Et quand vous grattez, hein, pour chaque athée, quand vous prenez un temps avec, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison pour laquelle il ne veut pas croire en Dieu. Et souvent aussi, c'est parce qu'on ne veut pas céder finalement. On ne veut pas que Dieu devienne notre propre maître un jour. On ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. On ne veut pas se soumettre à Dieu. Voilà pourquoi vous rencontrez très peu de vrais athées dans ce monde. Ce n'est même pas une façon de penser qui est naturelle, parce que le fait que les hommes devraient par nature chercher Dieu constitue un autre signe de la bonté de Dieu. Un cinquième signe de la bonté de Dieu, c'est qu'il entend les prières de ses enfants pour les perdus. Est-ce que vous dites amen à ça? Ben, pour les parents là, dont les enfants ne sont pas sauvés, là, moi je pense que ça devrait vous encourager ce matin. Dieu entend les prières des croyants vis-à-vis des perdus. Et les perdus, ça fait nos enfants font partie des perdus, s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est un autre aspect de la bonté de Dieu que ceux qui sont perdus ne réalisent pas et qu'ils n'apprécient pas toujours quand ils apprennent qu'on prie pour eux. Dieu est bon pour ceux qui ne le connaissent pas en permettant à ses enfants de prier pour eux. Dans Romains chapitre 10, verset 1, l'apôtre Paul dit « Ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Ouais. » Frères et sœurs, c'est une prière qu'on devrait pratiquer non seulement pour nos enfants, mais pour le monde qui nous entoure. Paul dit « C'est pas par routine que je prie. Seigneur, je prie de tout mon cœur pour les Juifs, afin qu'ils soient sauvés. » Frères et sœurs, je prie pour mon fils de tout mon cœur afin qu'il soit sauvé. Frères et sœurs, je prie pour que dans la ville de Liège, il y ait le plus grand nombre possible qui puisse être sauvé. Ouais. Dieu ne veut pas que nos prières se limitent uniquement aux membres de nos familles. Dieu veut que nos prières s'appliquent pour tous les hommes. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, je vous invite à tourner dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus va raconter une parabole pour nous encourager à toujours prier et ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager. Ne jamais dire, ça fait tellement d'années que je prie et il ne se convertit pas, il ne se convertira jamais. George Muller a prié pour 3 hommes dans sa vie. Il y en a 2 qui se sont convertis pendant qu'il vivait. Il y en a un autre qui s'est converti quelques années après qu'il soit mort. Donc les prières de George Muller, eh bien Dieu les a entendues, même au-delà après qu'il soit mort. La prière de George Muller, elle ne s'est pas étouffée, elle n'est pas disparue. Quand il est mort, elle avait déjà monté devant le trône de la grâce de Dieu. Et après sa mort, Dieu a fait grâce à George Muller. Il est répondu à la prière de cette troisième personne pour laquelle il avait prié pendant plus de 15 ans. Jésus va raconter une parabole pour nous encourager à toujours prier et à ne jamais se décourager. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu » et qui ne respectait personne. Je vais la lire en français courant. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. » Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. » Donc, vous imaginez dans sa position de juge, on était équipé en tant que juge. Hein? Il ne respectait pas personne et finalement, il ne craignait pas Dieu. Mais comme cette veuve me fatigue, on pourrait utiliser un langage courant aujourd'hui et dire, comme cette veuve me tombe sur les nerfs. Hein, c'est à peu près ça qu'on dirait, hein? Oui. Hey, toi, tu me tombes sur les nerfs. Ah, oh, il m'énerve, celui-là. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Ben, c'est à peu près la même chose, hein? Bien sûr, je ne crains pas Dieu, je ne respecte personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais finir faire reconnaître ses droits, sinon elle continuera à venir et finir par m'exaspérer. Frères et sœurs, ça, c'est un juge inique. Ça, c'est quelqu'un qui n'aimait pas personne. Ça, c'est quelqu'un qui devait appliquer la justice et qui ne l'appliquait même pas. Maintenant, regardez ce que Jésus fait. Et le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice aux siens, le juste juge de l'univers? Quand il crie à lui jour et nuit, tardera-t-il à les aider? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret dans la prière et on est une génération qui a besoin de crier comme les apôtres de Jésus. Apprends à ton Église à prier. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Regardez, c'est pas tu te lèves le matin, tu prends 2 minutes et tu sors ta liste de prière et puis c'est fini. Regardez ce qu'il dit. Fera-t-il justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Jour et nuit. Frères et sœurs, la prière, c'est un ministère. Et nous sommes tous appelés à ce ministère. Et regardez la conséquence de prier jour et nuit. Tardera-t-il à les aider? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Il va répondre à leur prière. Et dans le sens qu'ils m'ont prié, comme la veuve. Jacques dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, c'est-à-dire d'une puissance extraordinaire. Elle fait bouger le trône de Dieu. En d'autres mots, frères et sœurs, les domaines spirituels, les prières des enfants de Dieu sont puissamment efficaces. Et tout ça, il y a des conditions. Il faut regarder notre vie. Dans quelles conditions est ma vie chrétienne si je me présente devant le trône de la grâce de Dieu pour intercéder en faveur de ceux que j'aime et aussi en faveur des non-chrétiens? Combien d'entre nous, frères et sœurs, sommes des citoyens du royaume de Dieu parce que quelqu'un a prié pour vous et a prié pour moi? Dans la vie que je menais, je suis persuadé, et j'ai hâte de le rencontrer au ciel, j'aimerais rencontrer le premier qui a commencé à prier pour mon salut. Oui. J'aimerais le rencontrer. J'espère que Dieu va me donner cette grâce de rencontrer le premier qui a commencé à prier. C'était peut-être même... Écoutez, regardez toute la différence de prier. C'était même peut-être quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré. C'est peut-être quelqu'un qui a entendu parler de ma vie dissolue par quelqu'un d'autre. On lui a donné mon nom. Il l'a mis sur sa liste de prière. Il a commencé à prier pour moi. Et Dieu a commencé à placer des gens sur mon chemin pour que je vienne à la connaissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, alors que nous étions encore perdus dans nos péchés, une maman, un papa, un fils, une fille, un voisin ou un ami au travail qui s'était lié d'amitié avec nous, à notre insu peut-être, présenter notre nom à Dieu devant son trône pour que nous nous tournions vers lui. Frères et sœurs, seule l'éternité nous révélera jusqu'à quel point les prières des uns et des autres ont été utilisées par Dieu pour nous amener à devenir des enfants de Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui est suffisamment bon pour venir à Dieu par ses propres moyens. Est-ce que vous êtes amen à ça? Et essayez de vous rappeler, pour rendre grâce à Dieu quand vous serez chez vous, si vous connaissez la personne, de remercier le Seigneur de vous avoir placé cette personne-là sur votre chemin, de prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous briser et vous amener à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dernière, nos conversions, il y a toujours une prière qui précède notre conversion, toujours, toujours. On ne vient pas devant le Seigneur par hasard, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, et ce matin, vous n'êtes pas ici par hasard. Non, 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 il n'y a pas d'hasard. Pas d'hasard. Voici un sixième signe de la bonté de Dieu. Rapidement, il permet à ceux qui ne le connaissent pas de voir sa puissance agir dans la vie de ses enfants. Il y a de nombreux exemples qui confirment cette vérité, mais aucun exemple n'est pas aussi frappant que celui de Daniel. Daniel chapitre 3, vous connaissez Daniel chapitre 3? Le roi Nabuchodonosor va faire fabriquer une statue en or et il va ordonner que tous, sans exception, se prosternent et adorent la statue. Quiconque refuserait de se prosterner devant cette statue serait jeté dans la fournaise ardente. Les 3 Hébreux vont refuser de le faire et ils vont demeurer fermes dans leur décision en disant au roi, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ça veut dire quoi? Écoute, si tu nous envoies dans la fournaise, il va se passer quelque chose. Soit que Dieu va nous en délivrer, ou soit que Dieu, eh bien, va permettre qu'on meure, mais si on s'en va, nous autres. On s'en va le trouver si tu nous tues. Hein? C'est à peu près ce que Paul disait dans son temps, hein? Oui. Hein? C'est pour ça que Paul était capable de chanter des louanges, hein, avec silence dans une prison. Oh! Moi que je parte, c'est un gain pour moi, hein? Il le dit, hein, la mort m'est un gain. Ben, moi, mes problèmes sont réglés, hein, si je meurs, parce que je sais où je m'en vais. J'ai l'assurance de mon salut, je sais où je m'en vais. Moi, tu vas me rendre service si tu me tues, hein? Parce que moi, je n'ai pas le droit de m'enlever la vie. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie, mais si tu veux me tuer, il n'y a pas de problème, moi, je sais où je m'en vais. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire contre quelqu'un qui vous répond comme ça, quoi? C'est suffisant, vous laissez tomber votre épée hein, et votre lance. Hein. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On essaie de provoquer la peur chez ces gens-là hein, pour qu'ils lâchent prise, qu'ils abandonnent leur foi. Hein. Mais pas de problème. Allez-y. Alors, ils chantaient des louanges en prison. Et là, on n'est pas dans les petites prisons ici. Hein. Ouais. Les prisons de l'époque de Paul, il habitait pas tout seul. Hein. Il y avait des rats, des souris, il y avait un petit peu de tout qui traînait dans les cellules. Il n'y avait pas du marbre, hein. C'était de mauvaise qualité, c'était de la terre. Hein. Ouais. Et il n'y avait pas du double vitrage dans les cellules non plus. Hein. Des fois, il n'y avait même pas de vitre. Alors, quand l'hiver arrivait, c'était pas chaud pour les prisonniers. Et le gouvernement votait pas des budgets pour couvrir les frais de prison. Hein. C'était les amis, les connaissances de la famille qui devaient venir apporter des vêtements et de la nourriture aux prisonniers pour qu'ils puissent faire le temps pour lequel ils avaient été condamnés. Et Paul et Silas, eh bien, ils priaient. Ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Pourquoi ils étaient capables de prier, louer le Seigneur? Parce qu'ils connaissaient la raison pour laquelle on les avait mis en prison. Pas parce qu'ils avaient fait le mal, mais parce qu'ils avaient fait le bien. Et ce, au nom de la personne de Jésus-Christ. Furieux, le roi ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Et il les fit jeter tous les 3 dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui les avaient jetés. Mais les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et lorsque le roi a jeté un coup d'œil dans la fournaise ardente, eh bien, au lieu de voir 3 hommes, il en a vu 4. On en avait jeté 3, il y en avait 4. Alors il dit à ceux qui étaient à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et le roi reprit, il dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les conseillers du roi virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Frères et sœurs, on a un grand Dieu. Hein? Et c'est Dieu qui décide quand il va nous rappeler ou pas. C'est pas les hommes. Hein? C'est Dieu qui décide quand il va nous rappeler ou pas. Vous dites amen à ça. Frères et sœurs, lorsque le roi vit qu'ils étaient sortis de la fournaise sans aucune blessure, il loua ce païen publiquement le Dieu d'Israël en disant « Louange au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mes ordres royaux. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. » Frères et sœurs, voilà pourquoi nous devrions faire preuve d'audace. Ceux qui ne connaissent pas Dieu nous observent tout le temps, frères et sœurs. Ils étudient nos faits et gestes et ils nous surveillent pour voir si nous serons à la hauteur de nos propres convictions. Et lorsque nous sommes prêts à nous sacrifier pour ce que nous croyons, ils voient Dieu en nous et beaucoup d'entre eux louent le Seigneur à cause de notre fidélité. Je ne me souviens pas du nom que j'avais été visiter quelqu'un un jour avec Samuel Stebeski. Comment il s'appelle, celui qui est parti en Espagne? Guy? Guy Nguyen? Voilà, Guy Nguyen. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire... C'est juste vous donner un exemple. Hein. Il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone et il a trouvé mon nom dans le bottin, il m'appelle. Alors, je lui demande la nature de son appel. C'est parce qu'il voulait se plaindre de ses voisins protestants qui se disputaient tous les jours. Ben, j'ai dit, pourquoi moi? Ah, il m'a dit, je suis tombé sur votre numéro de téléphone. Alors, là, je ne voulais pas commencer à discuter. Surtout, je voulais manger une claque, quoi. Deux chrétiens et protestants qui se disputaient à chaque jour à côté. Ils entendaient tout, en plus, ce qu'ils me disaient. Alors, j'ai dit, écoutez, donnez-moi votre adresse. Je vais aller quand même vous rencontrer pour constater. Et Samuel, il peut témoigner parce qu'il était avec moi. Cette personne-là, Guy, avait perdu sa femme depuis 6 mois. D'un cancer, et il ne se relevait pas du cancer. Il avait arrêté de manger. Il buvait que de la bière, il fumait toute la journée. Il buvait bière et cigarette, c'était son menu. Et ça faisait au moins 6 mois qu'il n'était pas lavé non plus. Et c'était quelqu'un qui avait les cheveux jusqu'ici. Donc, si on avait voulu dire qu'il s'était lavé, on aurait pu dire qu'il avait plongé sa tête, finalement, dans une friteuse, et que ce qui était tellement gras, hein, ça luisait, qu'on aurait pu dire qu'il s'était lavé, pas avec du shampoing, mais avec de l'huile à frites, quoi. Et il était vraiment sale, répugnant. Moi, je ne suis pas dédaigneux. Hein. On dit ça ici, dédaigneux, oui. Ouais. Ouais. Ben moi, ça m'en prend beaucoup de me faire élever le cœur. Hein. Mais quand ils m'ont offert un café, j'ai pas été capable de le prendre. Parce qu'il n'y avait pas une tasse qui était lavée. On voyait le café de la semaine passée, du mois passé, de quelques mois, les cendres du café. Et on a pu prendre, je pense, un verre d'eau. Je pense que c'était en bouteille bien fermée. Mais, et ce gars-là, j'ai même pas parlé de ses voisins protestants. Le Seigneur me met un fardeau sur mon cœur pour y témoigner. Et il m'a raconté sa vie, sa déception par rapport à la mort de sa femme. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur et je lui ai dit, écoute, un jour tu vas mourir, tu vas comparer devant Dieu. Et il m'a dit, Guy, pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel? Pour que qu'est-ce que t'as fait de mon fils Jésus-Christ? Et là, il nous a sorti, Samuel, il est témoin, une dizaine de raisons. À chaque fois qu'il arrivait avec une raison, oui, mais Dieu ne dira pas si tu as fait ça. Je te dis, qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Quelle raison tu vas donner à Dieu pour rentrer au ciel? Eh bien, écoutez, c'est pour vous montrer, quand Dieu place dans le cœur d'un homme la pensée de l'éternité, là, il place dans le cœur de l'homme aussi que l'homme est pécheur. À un moment donné, il a lâché le morceau. Hein. Je ne l'ai pas lâché. Je l'écoutais parler, toutes les excuses qui me sortaient. J'ai dit, oui, mais Guy, quand même, Dieu va te demander, mais pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel? Là? Et à la fin, là, il me dit, Dieu ne me laissera jamais rentrer au ciel parce que j'ai commis tellement de péchés, j'ai jamais prononcé le mot péché. Alors j'ai dit, Guy, tu veux-tu qu'on prie ensemble pour avoir la certitude que tu vas rentrer au ciel le jour où tu vas comparaître devant lui? Il a fait sa prière. J'en ai jamais parlé de ses voisins protestants. Parce que ce jour-là, ce n'était pas avec ses voisins protestants que Dieu me donnait rendez-vous, mais avec cet homme-là, qui était désespéré, qui se serait peut-être suicidé parce qu'il ne s'en relevait pas. Et ce jour-là, ce gars-là s'est converti. Et là, on a eu peur parce qu'il a arrêté complètement de boire d'un coup. Il a arrêté de fumer. Il a tout arrêté. Et le dimanche, on lui avait donné l'adresse de l'église. Il est arrivé ici, hein, habillé en motard. Hein. Cuir, pantalon de cuir, les bottes, le veston de cuir, toujours pas lavé, et il est venu ici. Et il est descendu en bas après le culte et il a pris un café. Après, on a eu un temps ensemble. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je suis venu comme ça habillé pour voir si les gens portaient un jugement sur moi. Frères et sœurs, les païens, là, les non-chrétiens, ils nous observent. Si on fait le contraire de ce qu'on dit, être convaincu, on vient de perdre non seulement notre crédibilité, mais on vient de saler la réputation de Dieu. Parce que Dieu joue sa réputation avec vous, Dieu joue sa réputation avec moi. On est des citoyens du royaume, nous sommes des enfants de Dieu. Et Guy Nguyen, après, il est parti, il a vendu sa maison, en fait la ruine, ce qui restait de sa maison, et il est parti en Espagne. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles de lui, malheureusement, mais il est parti. Mais ce jour-là, Guy Nguyen avait un rendez-vous avec le Seigneur. Et frères et sœurs, notre témoignage est important. Notre témoignage est important. Les gens aujourd'hui n'ont pas besoin d'entendre, de se faire bombarder de versets bibliques. Ils ont besoin de voir des gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui vivent l'Évangile. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Et c'est ça, la puissance, elle se trouve là-dedans. Je le dis souvent, les pharisiens connaissaient la Bible sur le bout de leurs doigts, frères et sœurs. Et Dieu leur a dit que c'était des aveugles qui conduisaient les aveugles. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. Et les gens ont besoin à l'extérieur de voir des gens qui connaissent le Dieu de la parole. C'est-à-dire qu'ils ont une relation avec lui et non pas qu'ils vivent une religion avec lui. Voilà pourquoi nous devons faire preuve d'audace. Un septième signe. Septième signe de la bonté de Dieu. Et vous allez pouvoir descendre directement après en bas parce qu'il va être plus que midi moins quart. Vous allez pouvoir descendre directement en bas par la suite. Rapidement, il permet à ceux qui ne le connaissent pas de partager les bénédictions avec ceux qui appartiennent à son royaume. Je pense à Joseph, qui après avoir été vendu aux Madianites, fut vendu plus tard à Potiphar, qui était responsable de la sécurité du Pharaon. Frères et sœurs, on est en présence d'un croyant que Dieu va déraciner de son pays pour l'amener, en utilisant ses frères, pour l'amener dans l'empire des Égyptiens. Et Joseph, Dieu va l'élever, il va devenir l'administrateur de tous les biens de Potiphar. Et dans Genèse chapitre 39, nous voyons que Dieu bénit toute la famille de Potiphar. Il est écrit en faisant réussir tout ce que Joseph entreprenait. Un païen était béni, recevait les bénédictions indirectement du chrétien. Et à travers Joseph, nous voyons que ceux qui ne connaissent pas Dieu reçoivent des bénédictions simplement parce qu'un enfant de Dieu est présent au milieu d'eux, frères et sœurs. Joseph, il est en prison, pas parce qu'il a commis un péché, parce qu'il n'a pas voulu commettre un péché. Il est accusé injustement d'avoir voulu coucher avec la femme de Potiphar, et un esclave, à ce moment-là, n'avait pas plus de parole qu'un chien. Un chien était plus respecté qu'un esclave. Il n'y avait rien à dire. On l'a placé en prison. Et en prison, Dieu avait un rendez-vous avec un échanson aussi. Un échanson et un autre. Et Joseph était là pour dire à un, écoute, tu vas sortir, tu vas retrouver la place que tu as perdue auprès de Pharaon. Et pour l'autre, eh bien, tu vas sortir, mais là, Pharaon va te faire couper la tête. Et de fil en aiguille, regardez comment Dieu travaille. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas, si on marche sur un terrain de souffrance et d'épreuve aujourd'hui, on ne connaît pas ce que Dieu est en train de préparer en avant de nous. N'est pas. Essayez de voir Joseph qui est à la citerne, là, puis qui entend ses frères qui complotent pour le tuer. Il s'est sûrement dit, je ne sais pas s'il se l'est dit, il avait sûrement plus confiance en Dieu que moi, mais écoutez, il ne devait pas être là, alléluia, gloire à Dieu, quoi. Hein? Mais il ne savait pas ce que Dieu lui préparait. À partir de la citerne, il est vendu, Dieu fait changer d'idée. Dieu, en tout cas, les frères changent d'idée. On le vend à des marchands madianites. Ces marchands-là, eh bien, ils vont le vendre à Potiphar. Et de fil en aiguille, il est placé en prison. Et là, le pharaon, il y a une révélation. Et on va se rappeler, les chansons vont se rappeler finalement de ce Joseph qui est en prison. Et le pharaon va aller chercher. Et frères et sœurs, un chrétien dans un milieu païen, dans un pays païen, va devenir l'égal du pharaon. Bon, alors, vous imaginez si Joseph s'arrête uniquement sur tout ce qui ne va pas bien dans sa vie. Eh bien, c'est un déprimé chronique, quoi. Mais Joseph, il se dit, peu importe ce qui arrive dans la vie, tout concourt au bien de ce Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que tu prépares pour moi. Tu connais mes limites pour la souffrance, pour les épreuves. Seigneur, je te fais confiance. Et si on honore Dieu, frères et sœurs, bien Dieu honore celui qui l'honore. Tu t'emmènes à ça? Oui. Ouais. Parce que Dieu se réjouit de pouvoir utiliser un outil qui est pur entre ses mains pour sanctifier les autres. Les chrétiens sont la lumière du monde. Si nous partons à chaque fois que nous nous trouvons en présence des non-croyants, nous amenons la lumière avec nous. Et si la lumière disparaît, l'obscurité ne fera qu'empirer. Voici un huitième signe que Dieu manifeste sa bonté envers les non-chrétiens. Il leur permet de partager par procuration les bénédictions qu'il donne à ses propres enfants. Comment? En les utilisant pour faire progresser son plan dans nos vies, dans le monde. Et on peut penser ici à Pharaon qui exprime sa déception à Abraham lorsqu'il avait fait passer Sarah pour sa sœur alors qu'elle était sa femme. Ça doit être assez gênant qu'un païen, eh bien, reprend un chrétien en lui disant « Écoute, tu viens de mentir. » Ça doit être assez fort, hein? C'est ce qui s'est passé ici, hein? Bon, c'était la demi-sœur d'Abraham, puis c'était quand même sa femme, quoi. Hein? Ouais. Et il est repris par un païen, hein? Ouais. Ça doit être assez gênant. Ouais. Nous pouvons aussi penser à cet autre pharaon à l'époque de Moïse. Dieu endurcira son cœur et l'utilisera pour manifester sa gloire et faire sortir son peuple d'Égypte. Et là, je pense à Nabuchodonosor aussi, je pense à Marie-Joseph, que Dieu va utiliser, César Auguste, pour faire en sorte de les amener à Bethléem, pour faire en sorte que la prophétie de Michée, dans Michée chapitre 5, verset 1, se concrétise. Frères et sœurs, Dieu utilise les non-chrétiens pour finalement faire en sorte que son plan progresse et s'accomplisse. Et aucun de ces événements vont se survenir par accident. Et tous ces événements démontrent que Dieu tient le monde dans sa main et qu'il ne doit rien à ceux qui ne sont pas sauvés et qu'il ne doit rien à ceux qui sont sauvés, frères et sœurs. Dieu ne nous doit mais rien, de rien, de rien, de rien. Il faut arrêter de penser qu'on est plus béni qu'un autre à cause de ce qu'on fait. Non, si tu es plus béni qu'un autre, c'est pas parce qu'à cause de ce que tu fais, c'est à cause de ton obéissance envers le Seigneur et c'est absolument tout, quoi. Dieu ne nous doit rien. C'est important qu'on se mette ça dans la tête, quoi. Tu as tel don naturel, ben utilise ton don, mais tu dois rien. Dieu te doit rien parce que tu as ce don-là, quoi. Tout ce que Dieu veut faire, c'est l'utiliser pour se glorifier. Ouais. Et pourtant, dans sa bonté, ces événements que Dieu utilise ces non-chrétiens, ben ces événements qui sont provoqués par ces non-chrétiens vont jouer un rôle important dans son plan de rédemption en crucifiant Jésus. Frères et sœurs, le jour où Jésus a été crucifié, c'est au travers des païens, hein, que Dieu l'a amené à la croix. Hein. Et il s'est en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu, hein? Puisque la Bible nous dit que c'est Dieu qui a livré Jésus entre les mains des païens. Et Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre pour l'empêcher d'aller sur la croix. Hein? Dieu savait que c'était le seul moyen qu'on soit sauvé. C'est Dieu qui l'a livré, c'est ce que les Écritures nous disent. Et les païens, eh bien, dans leur méchanceté, ils croyaient de se débarrasser de lui, mais ils accomplissaient parfaitement le plan de Dieu. Hey, Dieu est en contrôle de toutes choses, il est en contrôle de votre vie. Si vous dites oui, amen à tout ce qu'il vous demande. Un neuvième signe, l'avant-dernier, il les invite à participer au salut à travers la mort de Jésus. C'est pour ça que je n'étirerai pas ça longtemps, mais c'est ce qui se passe ici. Ce qu'il vise, le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir dans la mort du méchant. Ce qu'il vise, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dans 1 Timothée chapitre 2, 5, Paul dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice, hein? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus, mais qu'il use de patience envers les hommes parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais que ce qu'il veut, c'est que tous arrivent à la repentance. Alors, on se demande pourquoi Dieu retarde le retour de Jésus, c'est qu'il veut que le plus grand nombre possible puisse être sauvé. Et dans le dernier livre de la Bible, Dieu dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, invitant ainsi quiconque le veut bien à être sauvé. Et nous pourrions ajouter les versets dans Jean 3, 16 et ainsi de suite. Pourquoi alors les gens ne sont pas sauvés? Manifestement parce qu'ils ont choisi de vivre dans le péché et dans la désobéissance et qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Frères et sœurs, cependant, il ne faut pas perdre de vue le point suivant. Personne ne pourra dire à Dieu, tu m'as trompé parce que tu m'aimes les autres plus que tu m'aimais. Personne, personne, personne. Voilà pourquoi je suis perdu. Personne, personne. Si dans certains coins, dans certains continents, sur certains continents, dans certains endroits, il y a des gens qui n'entendent jamais l'Évangile, c'est l'Église qui aura à rendre compte de ça. Parce que c'est l'Église qui doit aller porter l'Évangile. Mais il n'y a personne qui pourra dire, si je vais en enfer, Dieu, c'est de ta faute parce que tu aimais plus ceux-là que ce que moi. Et c'est important pour nous de se rappeler la mission que Dieu a donnée à l'Église. Quelle grâce on a d'entendre l'Évangile à chaque semaine. Quelle grâce qu'on a d'avoir la Bible à chaque jour, alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu un exemplaire ni une seule page. On a combien de versions chez nous? Et il y en a qui crient à Dieu, qui crient. Si Dieu existe, révèle-toi à moi. Et qu'il n'y a personne sur leur chemin pour leur annoncer ce merveilleux message qui parle de Jésus-Christ. Voici une dernière preuve de la bonté de Dieu à l'égard des non-croyants. Il répond à leurs prières quand ils s'adressent à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous ne trouvez pas ça épouvantable? Ou est-ce que ça ne vous parle pas davantage de voir que Dieu répond à des prières de non-chrétiens? Alors qu'il ne répond pas à des prières souvent de chrétiens. Corneille, c'était pas chrétien Corneille, hein? Il a prié, et il y a un ange qui est venu, qui est apparu, qui est rentré chez lui dans une vision, qui lui a dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière, et Dieu va y envoyer Pierre. Le centurion dont le serviteur était malade, le centurion c'était un romain, c'est pas un chrétien, il demande à Dieu, donc une demande c'est une prière, il demande à Jésus, parce qu'il tient vraiment, il est fort attaché à son serviteur, il demande à Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus dit, à cause de ta foi, vous imaginez? À cause de ta foi. Considéré comme un païen, à cause de ta foi. Est-ce qu'il n'a pas dit aussi à une autre occasion, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël, à travers une païenne? La Syrophénicienne dont la fille était possédée, c'est pas une chrétienne, c'est une païenne. Jésus va répondre à sa prière. Frères et sœurs, ça fait partie de la bonté de Dieu. Hein? Ce sont des gens qui n'appartiennent pas à son peuple. Mais Dieu regarde au cœur. Corneille, c'était quelqu'un qui était pieux. C'est quelqu'un, le texte biblique nous dit que c'est quelqu'un qui donnait aux pauvres, qui aidait les pauvres. Et on sait que les pauvres et les orphelins, Dieu a particulièrement à cœur les pauvres et les orphelins. Frères et sœurs, à partir du moment où quelqu'un confesse son péché, aussi grave soit-il, et qu'il croit que Jésus, en Jésus, pour être pardonné, Dieu lui accorde son pardon. Aucun pécheur ne pourra jamais dire, « Je demande à Dieu de me pardonner en Jésus-Christ, mais il s'est détourné de moi. » Jésus a dit, « Je ne rejette personne qui vient à moi. » Tout ceci m'amène à une conclusion simple, mais profonde. Dieu est vraiment bon pour les perdus, même si ceux-ci ne l'aiment pas. Et en y pensant bien, tout ce que Dieu fait pour les perdus est destiné à les conduire à la repentance. Nous pouvons donc nous joindre à Jérémie ce matin et dire, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, et que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et que Dieu n'est pas au bout de son amour. La semaine prochaine, on regardera ensemble comment Dieu est bon pour ses enfants. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier cantique.